Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les États-Unis n'ont toujours pas de président ce matin, mais un scénario prend forme. Joe Biden, le démocrate, se rapproche de la barre fatidique des 270 grands électeurs quand Donald Trump, président sortant, dépose des recours. Rien n'est encore joué dans l'état de Géorgie, par exemple, état décisif où nous nous rendrons dès le début de ce journal.
Nous irons ensuite dans le Wisconsin à la rencontre des habitants. Dans cet état, le président sortant veut suspendre les résultats.
Analyse complète ensuite des stratégies des deux camps, républicains et démocrates, pour s'emparer donc de la Maison Blanche. Dans ce journal aussi, un cri d'alarme, celui d'un médecin hospitalier à Paris. Les jeunes, dit-il, ne doivent pas prendre à la légère l'épidémie de Covid-19, leurs parents non plus.
Zoom ensuite sur un projet d'Amazon décrié par des élus et des associations. Le méga entrepôt doit faire 15 hectares en Alsace.
Et puis nous irons en Pologne dans moins d'un quart d'heure où les militants pro-avortement signent une petite victoire face au gouvernement polonais. Vous comprendrez pourquoi. Le Wisconsin et le Michigan. Joe Biden a remporté cette nuit deux états clés de cette présidentielle aux États-Unis et se rapproche donc des 270 grands électeurs nécessaires pour accéder à la Maison Blanche. Tout se joue à présent dans 4 ou 5 états et l'un d'entre eux devrait être décisif. Il s'agit de la Géorgie qui avait voté pour Donald Trump il y a 4 ans. Gaëlle Joly nous attend sur place à Atlanta avec donc un scrutin encore très très serré, Gaëlle.
Oui, à peine 30 000 voix d'écart entre les deux candidats. Joe Biden rattrape son retard et toute la question, c'est de savoir s'il va coiffer au poteau Donald Trump puisqu'on dépouille en ce moment les bulletins du comté de Fulton autour de la capitale Atlanta, une terre bleu foncé. Une victoire qui serait historique puisque le dernier démocrate à l'avoir emporté en Géorgie, c'est Bill Clinton. C'était en 1992. Alors, ce coude à coude, c'est déjà une victoire pour Rico, militant pro-Biden.
C'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Géorgie. Chaque année, il y a de plus en plus de démocrates ici et notamment dans les villes. Les gens veulent de la paix, de l'amour. Alors que les choses sont toujours aussi injustes ici dans le sud pour les Noirs afro-américains. Il est temps que ça change et ma génération, on se bat pour ça.
Tout à l'heure, l'équipe de campagne de Donald Trump a fait savoir qu'elle déposait un recours pour que l'un des comtés de l'État écarte les bulletins de vote arrivés trop tard. Une plainte absurde et sans fondement, estime le militant démocrate Kendrick Smith, avocat à Atlanta, qui a du mal à digérer l'annonce.
Personnellement, je suis choqué de voir mon pays comme ça. Je suis très inquiet. Je ne crois pas que Trump enverra des troupes dans les rues et qu'il arrêtera le décompte des voix. Il aurait affaire à la Cour suprême. Mais c'est un sujet très sérieux. C'est un déni démocratique.
Voilà, vous l'entendez, un peu d'humour dans un climat qui pèse lourd et qui inquiète beaucoup les militants démocrates ici.
Merci Gaëlle Joly depuis Atlanta, en Géorgie, pour France Culture. Remontant maintenant un petit peu plus vers le nord des États-Unis, Wisconsin, état frontalier à une forte population blanche ouvrière. Cet état est tombé officiellement cette nuit, hier soir, dans l'escarcelle démocrate. Et comme pour chaque revers, Donald Trump a déposé un recours en justice dans le Wisconsin. Nous y retrouvons notre envoyé spécial à Milwaukee, Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Rosalie, comment ce recours de Donald Trump est-il vécu sur place ?
Eh bien, il faut comprendre qu'ici, on s'est endormi mardi avec Donald Trump en tête de la course et on se couche là avec Joe Biden, vainqueur du Wisconsin. De quoi donner le tournis à Daniela, jeune étudiante qui soutient le président.
Il gagnait à l'origine, donc je suis assez surprise de ce retournement. Alors allons-y pour recompter. Il y a toujours un risque de fraude. Je ne sais pas à quel point ça peut être intentionnel et malveillant, mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un quelque part qui a tenté de manipuler au moins un peu le vote.
Pour justifier sa demande de recompter les votes du Wisconsin, l'équipe de Donald Trump dénonce des irrégularités dans plusieurs comtés. Quelles irrégularités, on ne sait pas, mais à Milwaukee, tendance démocrate, cette contestation n'étonne pas grand monde, surtout pas Chris, une retraitée.
Je ne suis plus surprise de rien avec lui. Moi, je pense qu'ils ont bien fait les choses. C'est pas nécessaire de recompter, mais c'est son droit.
Les règles électorales le permettent effectivement, mais ça irrite quand même un peu ici dans un point presse à distance, d'où le son un petit peu douloureux, pardon, à l'oreille. Megan Wolf, responsable des élections pour l'État, souligne le travail méticuleux réalisé tout au long du processus électoral.
C'est une grosse responsabilité que nous avons, mais le seul objectif qui nous anime, c'est d'organiser des élections avec soin, en toute sécurité et en toute transparence, pour faire en sorte que, quelle que soit l'issue du vote, nous puissions tous avoir une confiance absolue en les résultats.
Des résultats qui sont extrêmement serrés ici, 20 000 voix d'écart entre Joe Biden et Donald Trump. 20 000 voix, c'est ce qui avait permis à l'homme d'affaires d'enlever les 10 grands électeurs du Wisconsin aux démocrates il y a 4 ans.
Merci beaucoup Rosalie Lafarge en direct de Milwaukee ce matin. Je précise que des milliers de partisans de Joe Biden ont défilé par ailleurs hier à New York quand les supporters de Donald Trump défilaient eux à Détroit dans le Michigan. Pour analyser tout ce grand bazar, si l'on peut dire, Jean-Marc Four est toujours avec nous depuis Washington. Jean-Marc, Donald Trump a déposé donc des recours dans 4 États, comme nous venons de l'entendre dans le Wisconsin. Est-ce un grand bluff ?
C'est pas que du bluff. Trump semble, comme toujours, s'auto-persuader, en l'occurrence s'auto-persuader d'être le vainqueur. C'est comme ça aussi qu'il galvanise ses supporters, avec les risques que cela comporte pour la démocratie, puisqu'on a vu ces dernières heures certains de ses partisans chercher à perturber les dernières opérations de dépouillement dans le Michigan ou en Arizona. Et surtout, donc, son camp multiplie les procédures. Les républicains ont d'abord l'intention d'obtenir des recomptages, par exemple dans le Wisconsin, où on était à l'instant. Ils en ont le droit, vu la faible marge de la victoire de Biden dans cet État. Ils cherchent aussi à entraver les derniers dépouillements, notamment en Pennsylvanie. Pourquoi ? Parce que ces derniers votes à être dépouillés sont susceptibles de permettre à Biden de l'emporter sur le fil. C'est vrai en Pennsylvanie, c'est vrai aussi en Géorgie, où on l'entendait, c'est très serré ce matin, l'écart ne cesse de se réduire, Gaël Joly le disait à l'instant.
Et pendant ce temps, Jean-Marc, Joe Biden, lui, se voit déjà à la Maison-Blanche.
Oui, il a raison d'y croire, parce qu'au fil des heures depuis hier après-midi, le vent a tourné en sa faveur. Après avoir donc décroché les 2 états clés du Wisconsin et du Michigan, il lui suffit désormais d'obtenir avec certitude l'Arizona, que lui accordent déjà plusieurs médias américains, et le Nevada, où il est favori, pour atteindre, vous savez, ce chiffre magique des 270 grands électeurs qui lui garantit la victoire. Et en plus, il peut donc encore espérer battre Trump sur le fil en Pennsylvanie et en Géorgie, auquel cas sa victoire pourrait devenir, dans ce cas, confortable. Le camp Biden est donc optimiste. Ses conseillers sont persuadés que d'ici à la fin de cette journée, il y aura bien un 46e président américain. Et comme un symbole de sa première décision à venir, Joe Biden a tweeté, il y a 5 heures, son intention de tenir sa promesse de faire revenir les États-Unis dans les accords de Paris sur le climat. Une façon de dire déjà au reste du monde, c'est moi le prochain président des États-Unis.
Jean-Marc Four, merci beaucoup en direct de Washington ce matin. Enseignement de cette présidentielle aux États-Unis, présidentielle à suspense. Tous les enseignements sont à retrouver avec des articles à foison en une de notre site franceculture.fr ce matin. Confinement à tous les étages en Europe. Les pays se referment les uns après les autres face à l'épidémie de Covid-19 et à sa deuxième vague. Aujourd'hui, c'est l'Angleterre qui débute un nouveau confinement pour ses 56 millions d'habitants. Confinement qui devrait durer un mois. Pendant ce temps, l'Italie se prépare, elle, à un couvre-feu plus strict. Personne dehors après 22 heures à partir de demain. Musées fermés, centres commerciaux clos le week-end. L'Italie est sa capitale, Rome, où les restaurants sont déjà fermés depuis 10 jours après 18 heures tous les soirs. Leurs patrons se disent au bord de la faillite, comme nous le raconte ce reportage de Bruce de Galvin.
Avant même les nouvelles restrictions, la Taverna delle Coppelle a scotché partout dans le quartier de la Place Navone ses affichettes « Nous cuisinons et livrons à domicile ». C'est ce qu'il reste aux restaurateurs romains, car même s'ils peuvent encore ouvrir à midi, Gianni Cimino, qui tient un restaurant Place Navone, n'y croit déjà plus.
J'ai les larmes aux yeux, mais malheureusement je ferme plus tôt aujourd'hui, car depuis ce matin je n'ai pratiquement rien encaissé. À Rome aussi on va devoir tout fermer. Si ce n'est pas demain, ce sera la semaine prochaine.
Devant son restaurant, Gianni a mis une momie dans un cercueil. C'est comme cela que finiront les commerces si l'État ne nous aide pas, dit-il. Et c'est bien le problème pour Carlo Alberto, patron du Tabac Café sur le Campo dei Fiori, la place animée du centre historique de Rome. Il ne comprend pas pourquoi il devrait lui aussi fermer.
L'État nous oblige à fermer alors que dans les transports en commun, on n'a rien fait et il y a encore plein de monde. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis l'argent qui est versé dans d'autres pays, ici, il arrive arrive au compte-gouttes. Sur mes 22 employés, 17 sont au chômage et n'ont rien touché depuis juillet, et c'est à moi qu'ils demandent de l'argent.
S'il a pu rester ouvert, c'est parce que Carlo travaille avec son frère et qu'il est propriétaire. Il est 18h sur le Campo dei Fiori et déjà toutes les terrasses sont rentrées. On ne voit plus que les camions qui nettoient la place.
C'était Bruce de Galzin à Rome. Sachez par ailleurs que l'épidémie de Covid-19 progresse toujours rapidement en France, avec hier près de 400 décès à l'hôpital. Sur France Culture, un médecin lance une alerte ce matin. Le professeur Alexandre Demoule, il est le chef du service de médecine intensive réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et au micro de Cécilia Arbona, il s'adresse particulièrement aux jeunes adultes et à leurs parents.
La jeunesse ne donne pas un certificat d'immunité. On a, depuis la première vague, ça se confirme lors de cette deuxième vague, des patients jeunes, des patients de 25, 30, 35 ans qui sont admis en réanimation pour des formes graves du Covid et qui sont aujourd'hui entre la vie et la mort. Et ces patients, on imaginerait qu'ils ont des comorbidités, comme on dit. Mais non, pas du tout. Ils ont 10 kilos de trop, 20 kilos de trop, mais c'est rien. 15 kilos de trop, c'est quoi? C'est le bon copain, celui qui est bon vivant, qui aime bien les burgers, qui aime bien la bière, qui aime bien le Coca-Cola. Et ils ne sont pas porteurs de maladies chroniques très graves. Les jeunes doivent faire attention entre eux, car il y aura des victimes parmi eux. Et les jeunes doivent aussi faire très attention à leurs parents. Un quart des patients de réanimation atteints du Covid, entre la vie et la mort, c'est des gens qui ont moins de 50 ans. Quel que soit le confinement, quelle que soit sa légèreté ou sa lourdeur, il faut respecter les instructions, il faut limiter les contacts et il faut protéger ses proches.
Les jeunes cités d'ailleurs par le ministre de la Santé, Olivier Véran, avant-hier à l'Assemblée nationale, il s'alarmait lui aussi des conséquences sur leur santé. Faut-il se mettre en colère quand on fait de la politique? Question que posera Frédéric Seiss dans son billet politique. Ce sera après cette édition dans moins de 5 minutes. Avant cela, et pendant ce deuxième confinement en pleine polémique sur la fermeture des petits commerces, des élus locaux, commerçants et ONG s'alarment à propos d'un projet de construction d'un méga entrepôt d'Amazon. Ils s'y opposent, cela se passe en Alsace, au nord de Mulhouse, à Ennensheim. Une manifestation est prévue aujourd'hui devant la préfecture de Colmar, notamment avec l'association environnementale Les Amis de la Terre. Alma Dufour est sa porte-parole.
C'est en fait un projet qui est incompatible avec la lutte contre le changement climatique, on va le dire très clairement. Un tel projet, ce serait plus de 200 millions de produits importés chaque année en plus en France. Et aussi, en fait, ça va bétonner 15 hectares de terres agricoles. Donc à l'heure où justement il y a un moratoire sur les zones commerciales pour éviter l'artificialisation. Et enfin, effectivement, c'est un balai de poids lourds, ça va être des nuisances pour les riverains absolument colossales. On parle de 1500 poids lourds par jour, 4000 utilitaires. Et il faut que les gens le sachent, un emploi créé dans le e-commerce, c'est 4,5 emplois détruits dans le commerce classique. Notre position, en fait, elle est simple, c'est celle de la Convention citoyenne pour le climat. Ils ont demandé un moratoire sur les zones commerciales et les entrepôts de e-commerce. C'était une demande, le gouvernement a choisi volontairement d'exclure les entrepôts de e-commerce du moratoire. Nous, on demande le respect de la demande de la Convention citoyenne pour le climat, et donc l'interdiction des nouveaux projets, et évidemment celui d'Ensisheim en premier lieu, ainsi que l'abandon des 20 autres projets en cours d'Amazon, donc entrepôts, centres de agences de livraison, parce que ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est face à une stratégie de conquête très rapide de la part d'Amazon, et que si on stoppe pas ces nouveaux projets, en fait, demain, quand on va se réveiller après le confinement, il sera trop tard, en fait. Et ça va détruire des emplois, et ça va rendre la lutte contre le changement climatique encore plus difficile en France.
C'était Alma Dufour, interrogée par Annabelle Grelier, à propos donc de ce projet d'Amazon à Ensisheim. Partons maintenant en Pologne, où le gouvernement semble reculer devant la mobilisation inédite qui secoue le pays pour maintenir le droit à l'avortement. L'exécutif a suspendu l'interdiction en cas de grave malformation du fœtus, de quoi satisfaire en partie les manifestants, notamment dans une petite ville dans le centre du pays, à Jaodovo, où se trouve Sara Bakaloglou.
Dans le cortège, Ania, une étudiante de 24 ans, se réjouit du recul du gouvernement. Pour la jeune femme, le parti au pouvoir a été pris de court face à la mobilisation.
Je pense que le gouvernement ne sait pas quoi faire parce qu'il ne s'attendait pas à quelque chose comme cela. C'est un bon signe, vraiment, cela me donne de l'espoir. Et j'espère que ce gouvernement va nous parler pour trouver un compromis qui cette fois va satisfaire la plupart des gens et pas seulement certains croyants.
Some religious ones.
Depuis le début des manifestations, le parti Droit et Justice au pouvoir a perdu 10 points de popularité dans les enquêtes d'opinion. De quoi pousser le gouvernement à chercher une solution à la crise. Mais Alexandra, une jeune manifestante, reste méfiante.
Ils ont fait quelque chose comme ça déjà, en ce qui concernait les autres décisions assez controversées. Je suppose qu'ils ont peur et ils pensent que tout le monde va oublier et voter encore une fois pour eux. Et non, maintenant c'est un type de révolution.
Et les revendications maintenant dépassaient la seule question du droit à l'avortement. Beaucoup de manifestantes demandent le départ du gouvernement, l'indépendance de la justice ou encore une réforme de l'éducation.
C'était Sarah Bakaloglou, correspondante de RFI et de France Culture en Pologne. Ce jeudi, en France métropolitaine, sera une belle journée automnale. Après les quelques grisailles matinales sur le nord-est, le soleil va prendre ses aises avec des températures toujours fraîches. 4 degrés ce matin à Lille, 5 à Paris, 6 degrés à Rennes et Bordeaux, 16 à Marseille, Guillaume.
Merci Clara Lecoq-Réal.